Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we, with our £14 billion lending fund to help small businesses. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness. All lending subject to status.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la retour va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, Florent Gautreau est là, c'est l'after jusqu'à minuit, le foot européen à venir, Julien Cazard bien sûr, l'Euro 2020, mais également la Ligue 2 avec un but, événement, un oh but là. À Caen, Christophe Écuyer.
Eh oui messieurs, je l'avais dit que ça allait venir, je l'avais dit, l'ouverture du score, Canez ici à Dornano à l'heure de jeu avec le bon petit ballon donné par Jesse Demaguet dans l'intervalle à Nicolas Gioacchini, l'attaquant italo-américain de cette équipe Canez, la révélation lancée par Pascal Duprat à son arrivée ici en Normandie, un petit peu de réussite certes pour Gioacchini à l'entrée de la surface de réparation, le ballon qui passe entre les jambes de Baptiste Valette, le gardien de Nancy, ça fait donc 1-0 pour les Canets ici après 62 minutes de jeu.
Et oui, Pascal Duprat, découvreur de talent.
Ah ouais, ça on le sait, hein. Franchement, c'est quelle carrière.
Et que nouveau ce maillot jaune pour l'AS Nancy-Lorraine dont les couleurs sont rouge et blanc. C'est pas le deuxième maillot, c'est bizarre.
Il faut pas le critiquer, sa carrière parle pour lui.
L'Euro 2020. Alors tiens, une fois n'est pas coutume, on va lancer le débat avec un message sur Direct Studio de Socrates.
Alors lui, il est extraordinaire. Ah. Il m'a écrit tout le week-end, mais alors le truc, il m'a écrit tellement de trucs
sur l'Euro
que j'ai été mais complètement débordé.
Voilà.
C'est une sorte de je sais pas, il est très matheux. Mmh. Et il est capable de t'expliquer pourquoi. Enfin,
faut le prendre pour les tirages au sort et pour les poules.
Pas, ouais, pour les tirages au sort.
Peut-on dire que c'est le docteur Socrates?
Il met une raclée à Gilbert, je te dis même pas. Je dis même pas ce qu'il lui met.
Tu rigoles, je suis imprenable.
Ouais, mais une énorme raclée. Mais alors, c'était même pour m'expliquer pourquoi la formule de la Ligue des Champions, qui sera peut-être votée un jour, n'est pas bonne. Ça, voilà. Il met, à un moment, franchement, je me suis perdu à le lire.
Alors, et là, il a synthétisé.
Le docteur Socrates? Peut-être.
En tout cas, il a synthétisé son propos.
Il se réfère à lui.
Et c'est très intéressant. Parce que lui, il dit, attention, il faut aujourd'hui se poser la question de savoir si on peut encore sauver les compètes entre nations. Il faut critiquer le format de qualif. Ça, on l'a déjà fait. Voilà. Critiquer l'Euro à 24. L'Euro à 24, je rappelle quand même qu'au premier tour, tu ne sors que 8 équipes.
8 équipes.
Tu ne sors que 8 équipes.
C'est horrible.
Au premier tour. On en redébattra ensemble.
Tu sors que... Ah, mais tu enlèves.
Tu enlèves.
Oui, 8 équipes.
Tu élimines.
Ouais. Voilà. Ouais, mais ça veut dire que t'en qualifies 16.
Moi, j'étais déjà perdu, moi.
T'en qualifies 16.
Ah, si entre sortir et éliminer, tu comprends pas, on est mal parti, là.
Non, tu élimines.
Troisième point qu'aborde Socrates. Il nous dit, critique de l'avantage de certaines nations qui reçoivent 3 fois. On s'est fait avoir. La France n'est pas ville haute. Mais regardez la Russie et regardez l'Allemagne qui ont reçu des Coupes du Monde et des Euros. Eh ben ils vont encore recevoir chez eux là, tranquillement, à Saint-Pétersbourg, à Munich.
Ne pas être
parce qu'ils avaient eu l'Euro 2016.
Voilà. C'est la France qui a
refusé. Oui, bah, la Russie. Je te signale que la Russie, ils ont eu la Coupe du Monde il y a combien de temps?
Non, mais la France a décliné.
La France a pas voulu.
Eh ben ils ont une ville.
C'est la France qui a pas voulu.
Donc voilà. Donc Socrates nous met tous ces problèmes là sur la table que l'on va aborder tranquillement concernant l'Euro 2020.
Et Socrates, franchement, convoque-le qui vienne un soir. Je mets au défi. Je pense qu'au bout de 10 minutes, tout le monde est perdu.
Non, on ne convoque personne, on invite.
C'était une forme d'invitation que je voulais dire. Il sera ravi de venir.
Tu fais ça avec tes potes
sur les formules.
Je vous convoque à un dîner vendredi soir.
T'inquiète, ils viennent avec plaisir. Ils sont tellement bien reçus qu'ils viennent.
Ils font rigoler.
Mais dis-lui de venir. Il t'explique les compètes, les trucs. Je mets au défi. Au bout de 10 minutes, vous êtes perdu. Moi, au bout de 5, j'avoue, je suis perdu. Toi, au bout de 10, tu es largué.
Il t'explique. Bon, non, en tout cas, c'est des vraies, quand même, des vraies questions. Bon, déjà, évacuons l'histoire du tirage. Portugal-Allemagne. Alors tout le monde dit ouais, ça y est, Deschamps, la chance tourne. Voilà, bon.
Non, la rotonde va tourner.
La rotonde va peut-être tourner en effet pour une fois. Mm. Enfin, moi franchement, excusez-moi, les trois vont se qualifier.
Voilà,
c'est... Donc il n'y a pas tout le week-end. Non, mais tout le monde s'est excité là.
Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est mis à paniquer.
Bah oui.
Non, mais tout le monde va taper au minimum la petite équipe du groupe.
Voilà, ouais.
Donc il y aura au minimum une équipe à 3 points.
Et avec 4 points,
si
t'es meilleur 3ème.
Si tenté, ouais.
Tout dépend de qui est la petite équipe. Parce que si c'est la Hongrie à domicile. Taper.
C'est possible, t'as raison.
Il va falloir quand même y repasser.
Okay. Alors attends, préviens-moi là. Parce
c'est vrai que le barrage, c'est Hongrie, Bulgarie, Roumanie.
On est le meilleur des barrages. De la Hongrie qui jouera chez elle.
Non.
J'avais pas compris.
Non, mais il faut reconnaître juste que le tirage.
Je reconnais que le Portugal, champion d'Europe, a fait 3-3 contre la Hongrie en groupe en France. Voilà.
Ils ont eu un éclair ce jour-là, ils vont pas l'avoir tout le temps.
Non. Mais la Hongrie.
D'abord, Kirali est toujours là.
Il a arrêté.
Il y a Dudzak. Balas Dudzak.
Pour revenir à la question de départ et ce que disait Socrates, c'est que moi ce que je critique.
Attends, faisons thème par thème. Le tirage.
Non mais alors justement, mais je commence par là. C'est le tirage, moi, me gêne pas là. Mais ce qui est le plus important, c'est deux choses. C'est des qualifs globalement inutiles. Là, je parle des qualifs hein, avant. Et un Euro à 24 qui rend les poules moins intéressantes. En fait, c'est-à-dire que ce que tu avais, c'est-à-dire que tu avais une compétition.
Le vrai mais problème, moi, c'est la Formule à 24.
Ah, ben ouais, bien sûr. Voilà. C'est la Formule à 24. Mais moi je dis la même chose pour la Ligue des Champions avec les poules de septembre, octobre, novembre en disant élimination directe. Je dis la même chose sur les compètes internationales. On est passé évidemment à 32 à la Coupe du Monde, à 24, et tout ça est embêtant. On le voit à la Coupe du Monde. Non, mais bien sûr, ça va dans le sens de l'histoire, donc très bien, c'est comme ça. Sauf que tu ne cesses d'attendre le moment où il va vraiment se passer quelque chose. Tu attends.
Là, pour le coup, l'équipe de France, ça va tout de suite être bien.
Non, mais là, on va regarder parce qu'il y a de l'homogénéité. Mais globalement, ce que l'on sait, à peu près, c'est qu'effectivement, avec cette formule-là, tu vas encore attendre les 8e. T'attends les 8e. Moi, Ligue des Champions, j'attends les 8e. Ouais, là, j'attends les 8e et on attend les 8e.
Alors
et les
qu'avec l'Euro à 16, tu avais des qualifs avec du suspense.
Rappelle-toi, l'Euro 2000.
Et beaucoup plus de déchets.
Ouais.
Et tu avais une phase finale qui, d'entrée, était de haut niveau.
Bien sûr,
pour l'Euro, je suis d'accord avec vous, pour la Ligue des Champions,
ouais, c'est pas possible.
J'ai souvent dit que la phase de poule, oui, c'est vrai qu'elle ne présente pas toujours un intérêt. C'est pas, en fait, pour être très juste.
Tu rebats les cartes, t'as vu ?
Attends.
Tu changes de compète.
Pour être juste, Flo, il y a 6 matchs. Dire que les 6 sont intéressants, évidemment, non. Souvent, la dernière journée, on l'a souvent dit, c'est mort.
Et les grands matchs sont des menteurs par rapport à ce que tu vois. Oui, c'est-à-dire que grande équipe.
Non, mais ça, il suffit juste de ne pas accepter le mensonge. Après, tu ne peux pas dire que les deux PSG Real n'ont pas été intéressants.
Oui, c'est du match de gala. C'est du gala. J'exagère, je caricature.
Pour la Ligue des Champions,
c'est du gala business pour des droits télé.
Chelsea, Ajax. Oui, il y a quand même une poignée.
Je te dis pas que les matchs sont pas bien. Un club comme le PSG, tu te rends compte, s'ils avaient qu'un match à élimination directe en Ligue des Champions, ils auraient aucun match de haut niveau qui était très haut niveau.
Ce que je veux, non mais attends,
tu vois ce que je veux dire. Pour les clubs comme le PSG, pour les clubs comme les clubs portugais, même les clubs de,
ils
sont pas dans les 3-4 meilleures compétitions. Ils ont besoin des groupes de la Ligue.
Non mais le sens,
ça c'est autre chose.
Le sens de l'histoire, effectivement, va vers ça. Moi, je dis juste que...
Heureusement, on est sorti des deux fois de groupe.
Ouais, mais oui. Voilà, mais même, quand je vois PSG Real, ce que je veux dire aux gens, c'est en général, bien, vous avez raison, les matchs sont bien, c'est intéressant, ça me fait plaisir, je les ai regardés avec un grand plaisir, ça me fait plaisir de voir des joueurs comme ça, oui, ok. Mais moi, personnellement, je ne suis pas dans le truc, je me suis dit, oui, bon, bah, ok, on va prendre un grand plaisir, un grand kiff de foot, un peu en mode, je me fais mon match PlayStation entre les deux équipes que j'aime bien me voir opposer, mais moi, ce qui me fait vraiment triper, où t'as le truc qui se noue dans le ventre et les joueurs aussi, parce que tu sais que derrière, tu passes à la trappe si t'en prends deux au retour et des machins, c'est pas maintenant. Donc, tu rebats les cartes, d'autant que t'as certaines équipes qui ont tellement de marge qu'elles se préparent clairement, tu sens, pour le mois de mars et qu'elles ne donnent pas le plein potentiel, y compris physique, dès le mois de septembre-octobre. Donc, je dis pas que c'est inutile, t'as raison, il y a d'autres équipes, faut penser à tout le monde. T'as raison pour le PSG, d'ailleurs, en France, avec la Ligue 1, ce serait quand même assez compliqué de rester à un niveau de compétitivité, mais on rebat les cartes beaucoup, on rejoue les matchs plusieurs fois, puis à la fin quand même globalement on se dit en espérant qu'on aura les meilleurs. Et d'ailleurs les formules futures là qu'on veut faire pour les coupes d'Europe, c'est essayer d'avoir de toute façon de s'assurer que t'as les meilleures équipes dans les matchs décisifs.
Après pour le tirage au sort de l'Euro 2020, franchement ce groupe F, moi j'étais ici à la radio pendant le tirage, ce tirage il est juste abominable. Pour moi il est abominable parce que à chaque fois retrouver comme ça. La France, le Portugal, et en plus l'Allemagne.
Mais c'est eux qui doivent avoir.
Ça, c'est tes petits soucis privés, ça.
Oui, mais bon.
On s'en fout, mon gars.
Non, je ne dirais pas ça.
Non, mais attends, au demeurant, quand même. On dit, nous, la France, groupe et tout. Mais c'est quand même un mot. Moi, j'ai entendu les Allemands. et les Portugais, c'est eux aussi qui disent que c'est un tirage compliqué. Parce que tu te prends quand même la France championne du monde, parce que nous, on est là en train de dire, ah, le Portugal, c'est pas non plus l'équipe qui doit effrayer tout le monde
Portugal
en Europe.
Et outsider, comme l'a dit Fernando Santos.
Il a raison. Il a raison, d'ailleurs.
Alors, se pose ensuite la question de cet euro éclaté là. Dans plein de pays différents. Alors peut-être que vous allez dire si vous aimez ou pas. Alors Platini s'est fait un peu tomber dessus aussi. Hein. Il a réagi, il a défendu son projet.
Moi je trouve que sa réponse a toujours été très bien argumentée. Je vois pas trop où est le problème, sachant qu'il y a de moins en moins de pays qui sont d'accord pour organiser seuls les compétitions. Son argument, et c'est sa... Comment dire ? C'est sa bataille depuis très longtemps maintenant d'emmener le foot dans un maximum de pays, notamment à Budapest, en l'occurrence la Budapest, Bucarest et Bakou, Copenhague, où peut-être l'Euro, les grandes compétitions n'auraient pas pu aller. Ça fait très longtemps qu'il a envie de vendre cette idée-là. Et je vois pas pourquoi on pourrait ne pas y adhérer. Quel est le problème après tout ? La France va avoir comme camp de base Clairefontaine pour pouvoir aller faire ses matchs. Bon, s'il y avait eu un match à Bakou, bah peut-être qu'effectivement là ils auraient été obligés de bouger le camp de base. Mais je vois pas vraiment. Quand il y a la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est étalé sur un pays qui est grand comme notre continent et tu te fais les mêmes voyages.
La Coupe du Monde
en Russie en 2018, ouais, mais des grandes distances.
Quand c'est dans le même pays, il y a une identité, il y a une couleur.
Moi, je suis pas d'accord.
Ouais, alors pourquoi on pourrait dépasser ce concept.
Moi, j'aime pas.
Il y a des pays qui auraient jamais l'opportunité de recevoir des compétitions.
Il va y avoir des belles ambiances dans ces villes-là, des déplacements de supporters. Et après, il y a cette espèce de play-off à Wembley. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas mal.
De toute façon, moi, je pense que.
Je vois pas pourquoi c'est un problème.
Michel Platini, pour moi, c'est pas ma génération, mais je pense que, franchement, à bien les regarder, Platini, c'est comme le bon vin, quoi. En fait, plus le temps passe, et plus, en fait, tout ce qu'il avait décidé, c'était.
Il a un peu raison avant tout le monde.
Que ce soit pour le VAR, que ce soit là pour cette compétition.
Je vais t'expliquer, Gilbert, pourquoi ça n'a aucun intérêt d'être contre, entre guillemets, enfin, aucun sens aujourd'hui. C'est-à-dire que ces compètes-là, je parle des Jeux Olympiques, Coupe du Monde, je ne sais pas, d'Europe, parce que c'est du foot, aujourd'hui, ce sont des compètes pour la télévision. C'est-à-dire que si tu remets en place, en comparaison, le nombre de gens qui le regardent à travers la télé et les gens qui le regardent sur place, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai fait tous les JO d'été et d'hiver pendant 15 ou 20 ans. Je veux dire, j'ai vu des trucs parfois hallucinants, hyper bien réalisés, dans un stade à moitié vide parfois, malheureusement. J'ai vu des trucs de fou, même en athlétisme, mais où le monde entier regardait ça chez lui. Et ce sont des compètes, qu'on soit d'accord ou non avec ça. J'ai vu en Grèce des salles vides avec les champions de hand incroyables sur le parquet. Mais c'était bien filmé, c'était machin. Et le monde entier regardait et il n'y avait quasiment personne dans la salle.
Il y aura de la fan zone avec des bières dans chaque ville.
Et donc, premier argument, c'est un truc pour la télé mondialisée, donc ça, tu peux le mettre n'importe où. Deuxièmement, aujourd'hui, quand tu vis dans tous les pays comme le nôtre, où on dit à chaque fois ce que ça coûte d'organiser une compète,
tu dis, pour les
impôts, pour les machins, pour les trucs, tu divises un peu les coûts.
Il paraît que l'Euro 2016, ça a rapporté plus à la France.
On dit les points de PIB, Et troisièmement, il y a l'idée globale.
C'est la communication qui avait été faite.
L'idée de base de Platoche, qui est effectivement tout à fait louable, c'est d'amener le foot dans des endroits où effectivement il n'aurait pas la chance et la possibilité de l'organiser. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, je raisonne même plus trop en termes de pays. Honnêtement, l'Euro 2016 en France, tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'on s'en souvient, c'était fou la fête qu'il y avait dans les villes. Non, on l'a regardé, chacun chez soi, parce que t'es pas toujours à Saint-Etienne ou à Bordeaux.
C'était 98, notre première compète à la maison, ou 98, reconnaissant quand même que.
Dans chacune de ces villes, tu vas avoir les gens qui vont y aller, des déplacements. Dans chacune de ces villes, t'auras probablement des manifestations un peu festives organisées autour des matchs. Et en fait, c'est juste que la fête va être un petit peu éclatée. Mais je vois même pas pourquoi on pourrait être contre. Oui. Quel est le problème?
C'est quelque chose qui est vraiment, comme le rappelait Daniel, sur un anniversaire. C'est pas quelque chose qui va se reproduire. Donc
finalement, parce que Platini aurait peut-être voulu que ça continue, mais Seferin a dit non de tout.
C'est en Allemagne, le point sur lequel on est d'accord, c'est le format. Il y a trop d'équipes là.
Ah non, mais ça c'est complètement ridicule. En plus, ça permet. Alors oui, ok, il y a beaucoup plus de nations de très haut niveau, on va dire footballistiquement, qui sont qualifiées. Mais cette histoire. Et le Portugal en a bénéficié, mais cette histoire de, du troisième meilleur qui troisième. Passe, mais c'est n'importe
c'est
quoi.
C'est arrivé dans les Coupes du Monde en 94, en 90. Là, il y avait le meilleur troisième qui sortait, c'était un peu étonnant.
On dit qu'il y a trop de matchs pour les équipes, bah, pour
tu
les
vois,
joueurs.
Un Euro qui était magnifique, c'est l'Euro 2004 au Portugal. C'était tout dans le même pays, des stades parfois qui étaient très proches les uns des autres, ambiance extraordinaire.
Ouais. Non, mais c'est pas impossible.
Mais après, l'Euro 2016, c'était bien.
Alors, j'aimerais qu'on aille avec Thierry.
Juste un truc.
Juste, alors, non, ouais. Pour être complet, tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous disait oui, mais de toute façon, il n'y avait pas de candidat. Ah si, il y avait la Turquie qui voulait l'euro. Et Platini, en fait, n'a pas laissé le choix. Il n'y a pas eu de candidature pour un pays. C'est lui-même qui a dit, bah non, ce sera comme ça. Voilà, alors que la Turquie, ils veulent l'euro depuis des années. Hein. Et à chaque fois, ils se font avoir. Non, ils ont les stades et tout, les mecs.
Juste un truc, après, en termes d'excellence, c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'à une époque, et c'est assez logique, à partir du moment où on a ouvert un peu plus la Coupe du Monde, où on avait traditionnellement des petites équipes, parce qu'en Coupe du Monde on avait traditionnellement la Corée du Nord, en fait il y a toujours l'Euro est effectivement la compète un peu d'excellence, où tu avais vraiment les 16 équipes et ça te donnait un truc très homogène et d'excellence. C'est vrai que ça, de toute façon, c'est, aujourd'hui c'est déjà un peu dilué, c'est perdu quoi.
Thierry, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cet Euro qui arrive là?
Moi, je voulais intervenir pas forcément sur le format éclaté, parce que l'idée de faire un Euro dans 12 villes, pourquoi pas. Moi, ce qui me gêne, par contre, c'est l'avantage qui a été donné à certaines nations de recevoir 6 fois, 3 fois, puisque il y a les 4 pays du Big Four qui reçoivent 3 fois, plus le Danemark et plus les Pays-Bas.
Alors, petit bémol sur l'Espagne, parce que là, à un moment donné, je me dis, attention, l'Espagne joue à Bilbao. D'habitude, l'Espagne ne joue jamais au Pays Basque. Hein. Donc là, ça va être un retour de l'équipe nationale au Pays Basque. Et ce ne sera pas forcément un cadeau, dit-on, pour l'équipe d'Espagne. Bon, on verra. Hein, mais...
ouais. Et à Bilbao, il joue à
Saint-Mamès. Nouveau stade de Saint-Mamès, oui.
Non, je voulais surtout intervenir sur le je pense que l'After aurait intérêt à avoir une réflexion, un débat assez profond sur l'évolution des compétitions à la fois nationale et Ligue des Champions, parce que cet Euro à 24, ça a pas de sens, quoi.
Bon, là-dessus, on est d'accord tous, ouais.
Imaginons jusqu'à l'Euro 2012, les 16 qualifiés, on le connaissait maintenant. Les 16 du tour final. Dans le nouveau format à 24, on les connaît fin juin, quasiment, à la fin du premier tour, où on élimine uniquement, comme vous dites, 8 équipes sur 24. Donc, et surtout, le prochain débat à avoir pour l'avenir, c'est qu'il faut surtout éviter qu'on ait une Coupe du Monde à 48. Quoi,
parce que là, non, alors je pense que, tu dis, je pense que ce serait le décès officiel du football. Là.
Non, bah oui, c'est, en fait, le truc, c'est... Non. C'est, je vois ce que tu veux dire, Kevin. On sait très bien pourquoi tout ça est fait.
Bah bien sûr.
On est bien la d'accord.
Politique.
Plus de matchs, plus de billetterie, plus d'argent.
Mais c'est aussi de la politique pour être réélu la fois d'après.
C'est les deux, tu fais plaisir en donnant des matchs. Parce qu'en fait, en faisant plaisir, tu donnes du business à ceux qui organisent.
Voilà.
Tu as plus de matchs pour les télés. Les audiences, quoi que tu dises, les audiences même du match à peu près inutile, elles sont quand même bonnes et font rentrer de la pub. Donc, on va dire, c'est un vaste business. Donc, personne n'est dupe. On sait que c'est pour ça. Et après, quand tu dis... mort du football. Le seul bémol que je mets à ça, je veux bien te suivre, mais justement, ton rôle, mon rôle, nous qui suivons les matchs et qui aimons le foot, et ceux qui nous écoutent sont des passionnés, bah c'est juste de pas mentir. C'est juste de dire la vérité. De dire quand un match vaut le coup, de ne pas tirer d'enseignement d'un match où il faudra pas en tirer. Parce que c'est un match où, je sais pas moi, je veux dire n'importe quoi, le 0-0 arrange les deux équipes, ou le 2-2, où c'est pas un match important, où il faut pas dire, ah, ils ont mis une raclette à l'équipe. Oui, mais l'autre équipe n'avait rien à... Voilà, c'est juste d'analyser justement les choses sans se faire duper par la multiplication des matchs et le nombre de matchs qui sert à rien.
Oui, mais il faut quand même que le format de la compétition mette en valeur ce qui se passe sur le terrain. Cette histoire
moment,
du meilleur troisième.
À un moment, elle démarre la compète. Elle démarre en huitième sur les matchs à élimination.
Oui, mais quand même, il y a un moment, voir des matchs pour voir des matchs, non, il y a un moment.
Après,
non, moi, je suis pas d'accord.
En gros, t'auras le premier match qui veut dire quelque chose. Après, tu vas. En fait, le seul truc, c'est de pas mentir, c'est d'expliquer qu'il y aura des matchs qui vont peut-être où tu vas peut-être un petit peu calculer.
Mais aujourd'hui, il y a déjà trop de matchs. On enlève des compétitions. France, on a supprimé la Coupe de la Ligue,
Kevin,
parce qu'il y avait trop de matchs
et
que les personnes s'y intéressaient.
Après, c'est que les gens choisiront s'ils veulent pas regarder.
En fait, je pense quand même que ça doit venir des instances.
Ce n'est pas important, ils regarderont pas.
Si les instances ne prennent pas conscience qu'il y a un moment.
Mais ils vont pas prendre conscience d'un truc qui marche, le produit. Si t'as ta boulangerie, mais tu multiplies les points si t'arrives à les vendre.
Attends, Daniel.
Mais okay, c'est à toi d'expliquer mais la rareté.
Le luxe.
C'est à toi, c'est toi qui la rareté.
Oui, d'accord, moi je m'y connais, mais le luxe, c'est aussi la rareté quand même. Même si je sais qu'aujourd'hui, on trouve des magasins d'une certaine marque partout dans le monde.
Prends-le autrement, Kevin.
Ça reste quand même. Il y a quand même. Pour moi, dans le luxe, il y a quand même la notion de rareté et le football devient vraiment trop l'opposé de ça.
Prends le truc autrement. Tu es l'expert du défilé de mode et c'est à toi d'expliquer ce qu'est le luxe et ce qui est beau.
Ouais, mais bon. Quand derrière, on comprend pas.
C'est à toi de dire que c'est un sac à main vendu sur la place.
Ouais, mais Daniel, derrière, je te donne un exemple concret.
Parce que c'est très intéressant. Regarde les matchs à la télé.
Voilà, c'est ce que je te dis. Derrière, le problème, c'est que derrière, quand tu critiques l'équipe de France, la majorité ne comprend pas pourquoi tu le fais.
Mais quand tu expliques
que Messi, le meilleur joueur du monde, ne devrait pas avoir le ballon d'or, les gens ne comprennent pas pour la majorité.
Mais c'est pas grave, Kevin. Donc,
non, mais c'est pas grave. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas.
Explique, ceux qui veulent te suivre te suivront. Dans l'after, la plupart des gens nous suivent depuis des années avec un langage différent. Nous, on n'a jamais fait l'écriture positive de la Ligue 1. On n'a jamais vendu.
Heureusement, et merci aux auditeurs de nous suivre.
On n'a jamais fait passer des vessies pour des lanternes. On raconte pas de salade en faisant croire que tu as des phénomènes à tous les coins de rue. Et voilà. Ton regard sera de dire ce match, il est important. Ce match, c'est du mytho. Oui, ça va être dur parce que beaucoup de nouvelles générations ne comprennent pas, pensent que le football est un sport individuel où la statistique compte.
C'est pourquoi.
La vérité.
C'est pourquoi dans cet Euro 2020. C'est pourquoi dans cet Euro 2020. Moi, la sensation que j'ai avec ces meilleurs troisièmes, c'est que la sensation que j'ai eue en regardant PSG Real, Real PSG dans ces poules de Ligue des Champions, je vais la voir un peu en ayant France-Allemagne dès le départ. C'est-à-dire que tu regardes un truc qui est un succès d'année de ce qui devrait être l'euro en te disant normalement, bien sûr qu'il y a un petit risque, il y a le petit risque de l'élimination.
L'euro quand même, au minimum, normalement.
Non, mais je sais bien, mais ce que je veux te dire, c'est que là, avec le meilleur troisième, là, si tu n'avais pas le meilleur troisième, oui, dans cette poule-là, il y aurait une galère. Là, t'es dans un vrai poule de la mort. Si t'es un meilleur troisième, t'es plus vraiment dans la galère. Donc, t'es dans le cas où tu regardes un match.
Ce qui serait bien, ce serait que les deux premiers soient qualifiés. Parce que ça sublimerait le spectacle et l'intensité.
Je remercie Thierry,
dont parlait Florent.
Dernière petite remarque très juste d'Alexis qui lui dit la vraie équipe qui joue à domicile, c'est l'Angleterre. S'ils vont en finale, ils joueront 5 matchs à domicile. Oui, la poule, puis après.
Faut pas se plaindre des équipes qui jouent à domicile. La France, on a joué à domicile en 2016. La Russie a joué à domicile.
Le Portugal a joué à domicile en 2016 déjà en plus.
Le Portugal a un peu joué à domicile en 2016.
Donc, c'était.
2-3 infos du jour, les gars, avant de partir en Espagne et en Allemagne. Vous dire que Memphis Depay et Oussem Aouar sont de retour dans l'équipe lyonnaise, donc, qui affronte Lille demain soir. Ils étaient blessés tous les deux. Donc là, ils sont revenus. Dubois, on l'a dit hier, finalement, donc, devrait être absent 3 mois et non pas 6.
Ils s'en sortent bien, disons.
Donc, il s'en sort plutôt bien. Par ailleurs, Nasser El Khelaifi, entendu aujourd'hui en Suisse. Dans une affaire de corruption présumée, vous le savez, a entendu avec Jérôme Valk. Ils ont été interrogés pour des soupçons de corruption lors de l'attribution des droits de télé des Coupes du Monde de foot. El Khelaifi, donc soupçonné d'avoir offert des avantages indus à Jérôme Valk, dont l'usage gratuit d'une luxueuse propriété en Sardaigne en échange des droits de la Coupe du Monde 2018 et 2030.
Tu aurais été un beau croqueur.
Ouais, pour croquer, il faut qu'il y ait un mec qui te fasse croquer. En l'occurrence, c'est pour ça que El Khelaifi.
Est-ce que tu acceptes le croquage ?
A été entendu.
Il faut aussi de refuser.
C'est la différence entre corruption active et passive.
Il faut accepter le croquage ou pas.
Voilà, et dans les infos du jour, il y a encore d'autres trucs que je vous donne tout à l'heure.
Je vais préciser que j'accepte tous les croquages liés au tennis.
Patrick Vieira. Ouais, mais il paraît que tu nettoies pas les cours après.
C'est quoi ce tacle glissé là ? Propre, mais sur le ballon.
Ne te mets pas dans les roues de ce genre de conneries là, parce que ça m'exaspère au plus haut
point.
C'était
une blague.
Ouais, mais c'est une blague, mais les gens croient ce genre de trucs. Et j'avais complètement oublié cet épisode-là, d'ailleurs.
Tu jettes des papiers sur les cours.
Non, c'est pas vrai du tout. Mais je comprends pas comment
c'est. Quand tu joues au tarmac, il faut passer le filet, c'est ça ?
Oui, oui. Donc, le mec, en l'occurrence, a raconté ça, que je n'ai jamais croisé.
Et t'avais passé le filet ou pas ?
Ce jour-là, non. Il est peut-être
passé sur ton cours après.
En l'occurrence, lui,
il a vu que t'avais pas passé le filet.
Ce qui est un énorme mensonge. Ça n'est arrivé qu'une seule fois.
Est-ce que dans toute ta vie, t'as pas passé le filet une seule fois ?
Ouais, en l'occurrence, ça n'est arrivé qu'une fois. Mais ce genre de raclure qui profite d'un moment pour cracher sur une autre personne en faisant une généralité d'un seul événement, je pense qu'humainement, ces gens-là méritent le caniveau, quoi.
Jérôme Thomas, j'ai eu peur, qui est un habitué de la Terre battue, me dit en effet, ça peut arriver d'oublier de passer le
filet. Non, c'est vrai. Alors je vais te dire, Gilbert, quand tu perds, passer le filet, c'est vraiment un peu la double peine parce que tu te dis quand tu perds, t'es content.
Ça t'arrive. C'est pour ça que moi, je joue sur dur.
Il va trouver un journaliste pour lui dire non, à chaque fois, il fait le coup. C'est même pas mon club. Et le mec, le mec qui parle, je l'ai jamais rencontré.
Mais très beau club. Pourquoi tu joues sur terre battue alors qu'après t'as les chaussettes toutes dégueulasses?
Ouais, c'est vrai.
En l'occurrence, le tournoi avait lieu là-bas.
Terre battue, couvert.
Mon club en plus.
La Châtaigneraie. Très, ouais, mais très bon club. Très, très bien quand même. La Châtaigneraie.
Du coup, vous m'avez coupé là.
Il est pas prêt de me revoir. L'autre acclure de patron que j'ai jamais vu.
Pas loin de chez moi.
Ah oui, voilà. Patrick Vieira, dont on parlait tout à l'heure, voulait dire un mot sur cette histoire d'Angleterre, 5 matchs à domicile. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup, Patrick, non?
Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Et ça, forcément, ça va faire la différence à l'Euro. Dans quelques instants, on part en Allemagne, on part en Espagne. Les Drôles de l'âme arrivent. Et puis tout sur le Ballon d'Or après 23h. Pourquoi? Parce que Julien Cazard était invité. D'ailleurs, il vient de m'envoyer un texto en me disant: mais qu'est-ce que je fous là? Bah, viens, reviens, puisque c'est nul. Julien, on t'attend. A tout de suite dans l'After.
RMC, 21h30.
L'After Foot, Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, et là, attention, à Caen, nous avons un supporter sur la pelouse qui est en train de larguer les stadiers. Caen-Nancy, Christophe.
Il court vite, hein. Il court vite, Gilbert, notre supporter. Il a fait un
streaker. Le principe du streaker, c'est qu'il est nu.
Ouais, ouais, mais non, mais là, il fait un peu froid, Gilbert, quand même, ce soir.
Il fait un peu étudiant cané.
C'est un peu ça, ouais, effectivement. Ouais. Ils n'ont pas
vraiment
de rien,
il
les Normands, mais quand même.
Je pense, là, parce que...
Bon, ça a valu une petite interruption du jeu. En tout cas, c'était pas bien méchant. On sait pas trop pourquoi il est rentré sur le terrain, parce que parfois, vous savez, on va voir le joueur, l'entraîneur. On a eu un supporter.
Je pense que là, c'est vraiment juste pour faire, faire remarquer.
Ah, oui, bon, non, mais il y a quelques semaines, voilà, il y a un supporter qui s'est échappé comme ça, qui est venu invectiver Rui Almeida, juste avant qu'il ne soit démis de ses fonctions, d'ailleurs. Mais cette fois-ci, non, c'était juste pour faire le malin, tout simplement. Ça nous a valu un petit peu d'arrêt de jeu supplémentaire. Il y aura 4 minutes en plus ici à jouer à Dornanon. Il entre à l'instant même d'ailleurs dans le temps additionnel, et Caen qui mène toujours un but à zéro face à Nancy. Mais attention, on n'est peut-être pas au bout encore de cette rencontre. Nancy qui pousse pour essayer de revenir dans cette fin de match, messieurs.
Tiens, avant d'accueillir les Drôles de l'âme, j'ai un message à vous faire passer. Vous le savez, il y a une grande grève qui arrive le 5 décembre. Et bien RMC et BFM lancent un mouvement qui s'appelle l'entraide RMC-BFM. Allez sur rmc.fr, vous allez voir, il y a plein de plans pour vous aider dans vos transports, votre covoiturage,
d'hébergement. Dormir chez Daniel Riolo, pour
voilà,
ceux qui
plein
sont
d'autres services.
Bloqué.
Donc sur rmc.fr, RMC, allez-y dès maintenant.
C'est toi à Saint-Cloud.
C'est vrai, j'ouvre voilà. Mon jardin pour les temps de Quechua.
Coup de pouce supplémentaire. Jeudi toute la journée, RMC vous remboursera vos frais de déplacement toutes les 10 minutes. Donc restez bien à l'écoute. Jeudi d'RMC.
Dis donc, c'est voilà. Bien ça.
Opération RMC BFM. Jeudi. Voilà, un frais de déplacement, bon, c'est pour aller au boulot, hein. C'est pas pour aller en vacances au Brésil. Hein. Enfin, je précise.
Ça va être un factoche de Paris-Marrakech aller-retour.
Allez, Drôle de l'âme, c'est parti, jingle. Ils ne sont que deux ce soir. Ah bah ouais, parce que les deux autres sont venus hier soir. Donc on a divisé le Drôle de l'âme en deux. Donc entre hier et aujourd'hui. Voilà, on fonctionne par couple. C'est un peu comme l'euro. Hein. Donc hier on avait l'axe Rome-Londres. Là on a l'axe Rostock-Madrid avec Fred Hermel.
Historiquement, bonsoir, ça c'est pas vraiment arrivé ça.
Rostock-Madrid.
Bah, Rome-Londres, non. Pas trop.
Bah. Madrid-Berlin, ça a pu arriver quand même.
Ouais. Ouais, un petit peu quand même.
Bah, c'était pas net.
Il y avait... Ouais, mais quand même. Ouais, ouais, quand même. Ouais.
Il y a eu des moments,
c'était vachement bien en plus.
Il y a une communauté d'idées, on va dire. Salut Fredo.
Hola, Chicos.
Salut Paulo.
Salut mon cher Gilbert. Ouais. Je ne sais pas pourquoi tu cites Rostock alors que tu cites les trois capitales quand même des autres pays. Je pense que tu es alsacien à la bord un petit peu.
J'ai hésité avec Magdebourg.
Oui. Ouais. Mais c'est une belle ville, Magdebourg.
Magdebourg, c'est pas mal. Fait juste nuit à 15h, mais sinon c'est
exactement.
Sinon
exactement.
C'est sympa.
Et Heidelberg quand même.
Alors, les gars, juste, on parlait de l'Euro 2020 là.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez écouté notre débat. Et, qu'est-ce qu'on en dit? Ah oui, je voulais te poser la question, Fred. L'Espagne qui va jouer à Bilbao.
Ah, c'est un événement colossal.
Voilà, alors, raconte un peu, parce que c'est vrai que vu de France, ça peut paraître anecdotique, mais.
Ouais. C'est pas, personnellement, c'est pas rien. Je vis en Espagne depuis 26 ans. Je n'ai jamais vu un match de la sélection espagnole à Bilbao.
Vous savez Saint-Sébastien, ils y vont ou c'est tout le Pays Basque?
Non, pareil, au Pays Basque. Au Pays Basque, ouais. C'est-à-dire dans ce, qui est le, ce qu'on appelle ici Euskadi, qui est la communauté autonome de, du Pays Basque.
Donc, c'est Euskadi. Pas de Pamplune, pas de Bilbao.
Voilà, parce que.
Pas alors, de Saint-Sébastien.
Pamplune, c'est la Navarre, donc c'est les cousins, c'est juste à côté, mais c'est à peu près pareil. Il faut savoir qu'il y a eu quand même un mouvement terroriste hein, de l'ETA qui a fait des centaines de morts pendant plus de 40 ans, qui a aujourd'hui a rendu les armes grâce, et je vais le préciser, à l'excellente collaboration policière franco-espagnole. On ferme la parenthèse. Que c'est toujours compliqué
de ils peuvent se faire siffler là-bas.
Je pense pas pour l'euro. Je pense pas pour l'euro parce que Bilbao, l'Athletic Club, ils ont tellement envie de mettre en valeur leur stade qui est un stade tout neuf, hein. Enfin, il a 3-4 ans, ouais. Le nouveau San Mamés, voilà, tout ça, c'est fait. C'est pas l'Espagne qui a imposé, non, c'est une candidature qui est partie conjointement de l'Espagne et de Bilbao et de la région basque, etc.
Bah, en faisant candidature pour accueillir voilà. Des matchs de l'Euro, ils se doutaient que l'Espagne pourrait être
mais
là.
Bien sûr, ah bah non, mais de toute façon, c'était clair depuis le début.
Voilà.
Et ça, c'est une normalisation qui vient après la fin du terrorisme basque. Donc, c'est un événement colossal. Vu de l'extérieur, ça fait pas grand-chose, mais vraiment quand on vit ici, c'est pas anodin et c'est beau. C'est beau. Vous savez, quand l'Espagne avait joué la finale des Jeux Olympiques en 92 au Camp Nou, vous savez ça, et qu'ils avaient gagné la médaille d'or, jouer au Camp Nou, c'était pas anodin non plus. Hein. Mais là, au Pays Basque, c'est quelque chose d'important. Donc,
on revient, les gars, c'est fini à Caen, Christophe.
Oh là là.
Ouais, fini sur cette courte mais précieuse victoire du Stade Malherbe de Caen qui s'impose ce soir 1-0 face à l'AS Nancy-Lorraine. Le buteur, Nicolas Gioacchini, son deuxième but personnel à la 60e. Caen qui progresse, qui se retrouve 12e au classement de Ligue 2, messieurs, ce soir.
Merci, Christophe. Bonne soirée. Donc, Fred, je te laisse conclure sur l'Espagne.
Oui, donc, a priori, il n'y aura pas de problème, quoi. Mais on sait que dans les rues du Pays Basque, parfois, sortir un drapeau espagnol, c'est pas bien vu. Il y a des gens qui se font tabasser pour ça. Donc, je trouve que c'est normal que la sélection espagnole puisse jouer dans n'importe quel point de la géographie nationale. Et Bilbao est une ville. Et surtout, et je termine là-dessus, enfin, le football basque est le football qui a le plus apporté d'internationaux à la sélection espagnole.
Qui a donné un nombre d'internationaux.
Mais c'est un truc de fou.
Et des bons en plus, hein.
Bah, et des bons, ah bah oui. Enfin, je veux dire. Donc c'est naturel.
Comme Vidarreta, par exemple.
Bah oui, par exemple, qui était un immense gardien.
Pas lui que je pensais forcément.
Non, mais Ribar aussi comme gardien. Il y a eu Arconada, beaucoup de gardiens d'ailleurs. Voilà, enfin, mais des joueurs basques tout le temps. Enfin, il n'y a pas une sélection espagnole.
Arconada, il nous a beaucoup apporté à l'Euro 84. Ouais,
énorme gardien. Ah,
vous connaissez la légende autour de ça, puisqu'on est dans une émission de culture footballistique.
Quelle légende, vas-y.
Bah, la légende veut en Espagne que. En tout cas, les nationalistes basques, les Espagnols pensent que certains Espagnols qu'il a fait exprès pour ne pas faire gagner.
Oh ouais, c'est vrai qu'elle est bizarre. T'es le gars qui alimente le truc. Ouais, bizarre cette action.
Non mais pour vous dire là. Voilà,
donc s'il devait faire exprès, il y a une matière à faire autrement qu'un truc aussi une boulette
aussi compliqué à faire exprès.
Gilbert, t'as mis un extrait de Marseille-Toulon là aujourd'hui sur Twitter.
Ah oui, t'as vu.
Et j'ai l'impression que t'aurais l'impression que le truc a été fait exprès.
Ah, mais c'est
en mode on a parié sur l'OM et on laisse marquer un match.
Juste, je raconte cette histoire. Donc moi ce matin, je suis sur Twitter comme ça, je m'amuse puis je vois des petites vidéos, marrantes. C'est tu fais une relance à l'époque à Toulon-Marseille où t'avais Tiss et Rabat. Qui n'étaient pas des a priori, qui n'étaient pas non plus les mecs les plus bidons du championnat. Et en fait, ils font deux boulettes énormes et ça donne un but totalement gag que marque Voleur. Donc là, j'ai les gars de Toulon qui m'ont du club qui m'ont ouais, c'est pas beau de chambre et tout. Donc on s'est un peu marré. Et, sauf que derrière, tomberon de messages. Ah ouais, de toute façon, c'était un match acheté. Ouais, je me rappelle. De toute façon, c'était Marseille. Donc. Mais c'est quand même terrible.
Un jour des.
C'est quand même terrible.
Je vais me lancer dans quelque chose qui veut.
Alors que c'est une boulette.
Qui fera exploser mon compte. Mais j'en fous. Mais un jour, quand seront mis bout à bout certaines images de certains matchs entre 90, 91, 92. Ah, on peut aussi regarder le Marseille-Bruges hein, de 93.
Mais là, en l'occurrence, l'extrait que j'ai mis, si tu veux le faire exprès, tu ne peux pas le faire exprès. Donc, ce n'est pas possible que ce soit fait exprès.
Revois le but de Boxis contre Bruges.
Alors, non, mais là je te parle du Toulon-Marseille en question.
Il y a une telle quantité de matchs de ce genre-là.
En plus, les Toulon-Marseille à l'époque, c'était plus des matchs où ça se chauffait que des matchs où c'était tranquille.
C'est
hein.
Pour ça que quand j'ai vu ton tweet, j'ai cru que tu allais montrer un truc où ça découpait dans tous les sens.
Moi aussi, j'ai cru ça. Peut-être qu'il y avait Roland Courbis dedans.
Non, mais ça, c'était un peu postérieur.
Je suis sûr qu'il n'y a pas eu que ça. Hein,
qu'il c'était
que
le Toulon match. Très très dur, c'était aussi un petit peu avant. Alfano et compagnie. Ouais.
Bon, en Allemagne, l'Euro, on en dit quoi? On est content de jouer à Munich, hein, j'imagine, contre la France.
Il y a deux phases en fait. La première, c'est qu'ils sont super contents du groupe.
Parce qu'ils disent tout simplement, bah, tu sais, comme c'est une équipe qui est en reconstruction et qui n'a pas rencontré ou qui n'a pas d'énormément d'expérience par rapport aux grosses nations européennes, dire excepté les deux matchs contre les Pays-Bas, le match amical contre l'Argentine, il faut monter à 2017 pour avoir battu l'Angleterre, donc il n'y a pas vraiment de référence à ce niveau-là. Donc ils disent, de toute façon, c'est génial, le stade va être plein, etc., on va avoir une superbe ambiance. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième vague, on va dire, essentiellement aujourd'hui, en fait, dans la presse allemande et les autres médias, mais pas forcément les médias sportifs, qui disent, ouais, un groupe de la mort où tout le monde est qualifié, c'est sympa.
C'est
un peu ça qui ressort aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a des articles beaucoup plus violents, d'ailleurs, où ils disent que l'UEFA joue un petit peu avec le feu, tout simplement, en délocalisant tous ces matchs un peu partout, en amenant et aussi les
associations. Et ils ne sont pas conquis par la formule.
C'est pas ça, c'est qu'ils voient, écoutez, ce débat, il existe dans tous les pays, je pense, je parle sous le contrôle de Fred, et même je le vois parfois en France, il y a quand même différentes personnes qui comprennent que le gigantisme du foot aujourd'hui, il y a quand même peut-être des limites qu'il faut mettre au bout d'un moment. C'est un peu ça, si tu veux, le débat qu'il y a. C'est-à-dire qu'on est quand même en train d'inviter à l'Euro, quand même, les associations d'aveugles et de cul-de-jatte, quoi. Enfin, ça faut au bout d'un moment.
Attends, ça dit, Polo pourra revenir sur le
foot. Ah, sur... Jusqu'où l'élitisme, Polo?
Ah bah en plus c'est une idéologie évidemment boboïsante, tourisme kangourou, enfin c'est insupportable.
C'est quoi tourisme kangourou?
Je sais pas. Bah, le tourisme kangourou, c'est Gilbert Bribois qui, comme il a de l'argent, et bien le week-end il part à Berlin et il va avoir un musée, parce qu'on lui a parlé d'un musée dans une revue extrêmement intéressante culturellement parlant, et qui te dit oh, qu'est-ce que c'est bien Berlin.
D'accord, bah, voilà. Moi je revendique, ça me plaît.
Bien, mais oui.
Nord Berlin.
Bah alors comment on fait, Polo? Les petits, on les laisse dans leur mère toute leur vie ou on les fait participer?
Ils vont jamais oublier, quoi.
Mais non, mais on pourrait avoir différents. Bah là, c'est un débat très long. On pourrait. Non,
mais
faire
comment tu les fais croquer
façons.
Un peu de temps en temps?
Parce que, mais on les fait croquer. C'est surtout les grosses nations aujourd'hui qui croquent, quoi.
Bah là, en l'occurrence, tu vas donner un petit peu à manger à Bucarest, Budapest et Bakou.
Mais non, mais il parle de la qualification des équipes.
Il parle de la qualification des équipes.
Il a raison, Polo.
Comme ça.
Ah, il y a moins de risques pour les gros.
Ah, je pensais que tu parlais de là où vont avoir lieu les matchs. Pardon.
Et comme par hasard, les gros sont ceux qui apportent le plus de pognon dans le football. Enfin, je trouve ça bizarre.
Ah, on en a
parlé tout à l'heure, on est d'accord.
Dans ces cas-là, tu fais croquer les petits pays, c'est pas mal, ils ont le droit de participer à la fête, non?
Mais on peut le faire de différentes façons. Encore une fois, moi, c'est comme les qualifications où on m'explique depuis que je suis né qu'il faut faire jouer les petits avec les gros parce qu'à l'époque, on se prenait 8-0. 40 ans après, on se prend encore 8-0. Donc, au bout d'un moment, il faut, et on m'explique, tu sais, c'est comme un peu les pays en voie de développement, ils sont toujours en développement depuis que je suis né, moi.
Mais dans ces cas-là, on fait rien. Pour tenter non mais autre chose,
c'est pas ça, Polo, c'est pas ça, c'est
Polo, Polo, on est d'accord. Moi, tu sais ce que j'ai dit, je pense que la meilleure formule, et on était là avec Florent il y a quelques semaines, la meilleure formule pour les qualifications, je sais pas si vous serez d'accord avec moi messieurs, mais c'est de garder la Ligue des Nations et d'en faire les qualifications pour les compétitions, voilà, et avec une montée, une descente, et puis les meilleurs, il y aura forcément du brassage parce que c'est obligatoire, mais on aura quand même un football qui tend vers le haut pour tout le monde.
Mais messieurs, dans quelques instants, on revient.
Juste, Polo, il y a juste un truc. Oui. Tu disais qu'il n'y a pas de réaction. Moi, j'ai vu que Kimmich avait quand même dit qu'il n'avait pas aimé ce tirage, qu'il trouvait bizarre de s'être autant démené en qualif pour arriver à se choper le champion du monde et le champion d'Europe en titre. Donc,
Oui, mais ça, c'est pas. Je veux dire, c'est pas lui. Je veux dire, c'est le modèle qui est comme ça. C'est-à-dire le système des têtes de série fait que, enfin, si la France prend pas tous les points contre la Turquie, il se retrouve pas à tête de série dans le groupe. C'est ça. Enfin, c'est pas.
Mais à chaque fois qu'il y a un problème de tête de série, de toute façon, il y a toujours quelque chose à redire dessus. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu vas pas faire un tirage intégral pour
Je critique pas là-dessus. Je m'en fiche complètement. Je dis juste que je suis à peu près d'accord avec ce qui est écrit en Allemagne lorsqu'on dit super un groupe de la mort où tout le monde est qualifié. Quoi. Mmh.
Dans quelques instants, on est de retour. Pendant la pub, il faut que je vende des conseils à Fred pour mon week-end kangourou à Madrid. Et on revient ensuite très vite pour reparler d'Atlético Barça. À tout de suite.
C'est la classe. Tu prends ton jet privé, tu vas juste visiter le Prado, tu reviens.
RMC jusqu'à minuit. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Kevin Diaz, avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo, avec Polo Breitner en Allemagne, avec Fred Hermel en Espagne, bien sûr. On a le classement complet du Ballon d'Or, hein, alors on en reparlera tout à l'heure, avec Julien Cazard quand il va revenir. Il y a quand même deux, trois trucs un peu hallucinants. Par exemple, Aubameyang, mieux classé que Benzema, par exemple. Bon, parce que...
Oui. Benzema très loin quand même.
Bah non, mais Benzema il mérite un meilleur classement que 26e. Ouais. Alors, on verra le détail des votes. Mais voilà, bon, vous savez que l'After a un avis sur le Ballon d'Or qu'on a déjà dévoilé hier, Kevin Diaz notamment, qui a donc son Van Dijk deuxième, mon petit Kevin, comme on l'a annoncé hier d'ailleurs. Mm-hmm. Et Cristiano troisième, Sadio Mané quatrième. Mohamed Salah 5e, Mbappé 6e.
Alors, Sadio Mané 3e.
Oui. Oui. Non, 4e. C'est Cristiano le 3e.
Donc c'est bien ce que je disais hier, quoi. Que Messi soit devant Van Dijk, pour moi c'est incohérent, mais alors que Cristiano soit devant Mané, c'est au moins aussi incohérent voire plus.
Voilà. Ça fait réagir chez vous les gars en Espagne et en Allemagne ou on s'en fout? Non, en Espagne,
on s'en fout pas, vous rigolez. Ouais. L'Espagne, le ballon d'or, c'est hyper important. Mais après, vous savez, le problème, c'est le problème de division des votes. Faut pas l'expliquer à chaque fois, à partir du moment où, une équipe,
Moi, je suis pas d'accord, Fred, la division des votes.
Non, mais c'est mathématique.
Non, mais Fred, c'est pas mathématique. Quel journaliste aujourd'hui au monde se dit, je vais voter pour Cristiano et Messi? Avec la saison des mecs de Liverpool. Ils doivent être tous les trois sur le podium. Arrêtez de me dire qu'ils ont divisé les votes.
À partir du moment, c'est comme l'an dernier, comme Griezmann, qui pouvait être ballon d'or, il est 3e et Mbappé 4e, les votes se divisent. Vous comprenez ça?
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, pour moi, ça ne devrait pas se diviser. Ça devrait se diviser en 3, les votes.
Mais c'est une question mathématique.
Non, mais ça peut se diviser en ta faveur.
Ça peut se diviser en 3 aussi. Les 3 joueurs de Liverpool auraient pu être sur le podium.
Ça se divise vers Modric au final l'année dernière.
Mais derrière, pourquoi? Parce que moi, je pense l'an dernier qu'un joueur de l'équipe de France aurait dû gagner. Mais à partir du moment où il y a plusieurs leaders dans une équipe, c'était le cas avec l'équipe de France, et ben les votes de Griezmann et de.
D'accord, là, je te comprends mieux.
Tu comprends. Là, il y a 3 de Liverpool. Tu veux voter?
Si Liverpool avait une méga star dans son équipe, elle aurait été
Ballon d'or. C'est pour ça. C'est la division.
Demain, quand on va sortir le vote de chaque pays, il faudra faire l'addition du nombre de fois où c'est un mec de Liverpool qui est arrivé en tête. Et je suis pas sûr.
Parce mais que oui, les gens votent pour Messi.
Donc, je pense que le mec qui est arrivé le plus souvent en tête, malgré tout, c'est Messi. Ouais, alors,
excuse-moi, enfin, pour bosser un petit peu pour le Ballon d'or, et connaître des jurés, je peux dire que les mecs bossent. Enfin, je veux dire, les gens voient les matchs. C'est-à-dire que les votants Ballon d'Or journalistes.
Mais c'est pas
des
vrai. Tu ne m'as pas compris, donc je recommence. Tu n'as pas entendu, je me suis mal expliqué.
J'ai compris. Oui,
donc il faudra voir si ce que tu dis est vrai sur la division machin. J'accepterai cet argument si, quand je vais regarder le classement de tous les pays, c'est un mec. Les mecs de Liverpool sont souvent arrivés premiers, mais un coup c'était Mané, un coup c'était Salah, un coup c'était Van Dijk. Et dans ce cas-là, à l'arrivée au nombre de votants, c'est Messi qui gagne. Mais moi je ne crois pas. Je crois que c'est Messi qui est arrivé le plus souvent premier.
Fred, tu dis les mecs boss. Alors, toi, tu dois connaître les mecs en Europe, tu vois.
Oui, bien sûr, mais après,
je sais pas dans quelle mesure le mec des Samoa ou le gars du Nicaragua. Mais
je peux vous dire que c'est déjà beaucoup plus sérieux que les capitaines de sélection qui sont des mecs qui ne votent en plus. Enfin,
c'est une escroquerie.
Mais là, on est d'accord.
C'est très bien qu'il y ait des mecs, c'est le président de la fédération qui vote, etc.
Exactement.
Il y a toujours des doutes là-dessus. Là, je sais, parce qu'en plus, je connais la personne qui gère ça, c'est très sérieux et on étudie.
Moi je veux bien que tu nous expliques, mais qu'est-ce qu'il en pense alors la personne qui gère tout ça alors? Voilà, j'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce qu'il en pense.
La personne qui gère tout ça, rassemble les votes et puis
il trouve que c'est logique que ce soit pas un joueur de Liverpool, au moins Mané ou Van Dijk qui soit Ballon d'Or.
Tu sais, la légitimité de la démocratie, il y a des gens qui votent en leur âme et conscience. Tu vois, ça, c'est peut-être un peu compliqué.
Mais dis-moi, Fred, un mec qui vote n'importe quoi. Je sais pas, moi, je te dis, les mecs, imaginons, je te prends un truc totalement au hasard. Le journaliste iranien, il met un Iranien en premier, un Japonais en deuxième.
Ouais, il peut pas mettre un Iranien parce qu'il est pas dans la liste.
Il est pas dans la liste, il faut être dans la liste déjà.
Enfin, tu vois, déjà.
Il est présélectionné des 30, je veux dire.
D'accord.
Par contre, il peut faire n'importe quoi dans la liste des 30.
Souvent, tu remarqueras que dans beaucoup de pays, ce sont des gars qui sont proches culturellement, qui sont désignés.
Mais ça aussi. Il faudra voir en Afrique
combien c'est une bêtise, mais ça arrive très souvent. Le chauvinisme s'applique à tout le monde,
Mais bien entendu, après, il y a une vision du football différente suivant le pays dans lequel tu habites.
Mais c'est vrai que.
Que le votant sénégalais mette Mané en 1, on va pas lui dire.
Non, mais ça, c'est normal.
Non, ça, pour le coup, là, il est.
D'ailleurs, on le connaît, c'est le votant sénégalais, c'est notre ami Aliou Goloko.
Ah bah. Tu viens d'Aliou?
Si, Aliou, il a fait les after acts.
Ah bah oui.
Ce qui est vrai, c'est que sur une année comme ça, pour revenir à ce que disait Kevin, c'est que les journalistes devraient mettre. Il y a aussi des fois, tu te fais une sorte d'autocensure, c'est-à-dire que tu dis, je vais mettre un gars de Liverpool en tête parce que cette année, c'est pas possible autrement. Tu mets quelqu'un, et parfois, t'oses pas faire ce que tu aurais dû faire là. mettre les trois de Liverpool.
Mais bien sûr.
Tu sais, tu aurais dû commencer par dire, je vais faire ça. Mais je pense que même en termes d'autocensure, tu sais, de presque de politiquement correct, tu mets, mettons, Mané. Puis après, tu dis, ah, mais je vais pas mettre Mané, Van Dijk et machin dans les trois premiers. Ouais, mais et donc derrière, tu commences à dire,
il y a quand même un joueur, Fred, après, moi, franchement, s'il avait été, il y a pas mal de gens, de Français qui disent, ah oui, mais Varane l'a pas gagné, donc Van Dijk peut pas le gagner. Mais jusqu'à preuve du contraire, Van Dijk a été meilleur joueur de Première Ligue, le plus grand championnat au monde. Je pense pas que Varane a été élu meilleur joueur, pas meilleur défenseur, meilleur joueur de Première Ligue. Je pense pas que Varane a été élu ne serait-ce que dans le top 10 des meilleurs joueurs d'Espagne, l'année où il aurait prétendu au Ballon d'Or. Derrière, c'est quand même, le gars est élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, joueur de Première Ligue.
Les gars, du coup, on n'a pas parlé des championnats respectifs.
Mais c'est pas le meilleur joueur du
monde. Moi, j'ai eu un grand match hier.
Juste
le Bayern qui a perdu, mais c'est pas grave.
Ouais, mais on va en parler. Et puis surtout, Polo veut absolument parler de Marcus Thuram, je le sais. Hein, donc, ce sera dans quelques instants.
Non, mais après, il y a un truc aussi. Moi, je sais, parce
qu'on a dit qu'on arrêtait.
Le votant espagnol, par exemple, il attend à la dernière minute et il regarde les dernières. Parce que c'est sur l'année civile, c'est pas sur la saison dernière.
Le votant espagnol, avant qu'il vote pour un mec qui est pas en Liga, je veux dire. Il va pleuvoir de la merde.
Je sais pas
c'est qui le votant espagnol.
C'est Alfredo Relaño, le meilleur journaliste sportif espagnol, patron de l'AS.
Et il votera 100% pour un mec qui joue en Liga.
Est-ce qu'il t'appelle avant de voter?
Ah ben sûr que non. Sûr que non. Bah attendez, mais c'est très sérieux ces trucs-là.
En tout cas, j'ai Jimmy sur un direct studio qui me dit: Messi a gagné plus de ballons d'or que le Barça a gagné de Ligue des Champions. Le Big Bang du foot est né. Voilà ce que dit.
Stop.
Dans quelques instants, Barça, ouais, Atlético, Marcus Thuram, le Bayern, c'est juste dans quelques secondes. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we, with our £14 billion lending fund to help small businesses. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness. All lending subject to status.